Monsieur QB.
On n'est toujours pas au point sur ce QB. Allez, vas-y, une dernière fois. Bienvenue sur
Tokyo Yume.
Là, j'ai senti quelque chose quand même.
Hein. Ouais, là, il y a eu du programme.
Là, c'est des mots. Allez, donc du coup, vous êtes sur Tokyo Yume. L'émission, la seule émission qui traite du manga, de la pop asiatique, des jeux vidéo, des yaoi, des dramas, des hentai, du cinéma, de la cuisine, de plein de trucs super cool, super fun. Évidemment, une émission qui s'adresse aux otaku et aussi aux néophytes. J'ai envie de dire, c'est tout le monde qui peut écouter Tokyo Yume. Même si vous en avez strictement rien à faire.
Attention, il y a de la K-pop
quand même, quoi.
Il y a de la K-pop.
De la K-pop.
K-pop.
Et bientôt la P-pop aussi, elle arrive en force. Attention, ça ressort l'accordéon, moi je peux vous dire. Et ça casse des briques.
Et il est cruel.
Allez, donc du coup, on va commencer tout de suite la présentation de la team, parce que ce soir, c'est du lourd. Quelque chose de totalement différent, c'est du jamais vu. On va commencer tout de suite avec notre cher ami, Haro. Certains m'ont demandé, pourquoi Haro? Pourquoi un nom comme ça? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, faut remonter à l'époque des mythes et des légendes.
Oui.
Ça veut dire flèche. Voilà, tout simplement. Rapide comme une flèche, c'est notre cher ami Haro.
Je suis une flèche.
Voilà. Alors, flèche. Comment ça?
C'est dans le fils dans les indestructibles.
Voilà. Ouais. Pas mal.
Et en plus, il était pas mal.
Et beau gosse en plus. C'est mec. On parle d'un gamin qui a
eu gros pectoraux.
Il avait 12 ans, ouais, c'est ça.
Alors, donc, du coup, ce soir, tu vas nous parler de quoi, toi?
D'un manga. Que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est plutôt sympa. Un manga, okay, c'est ça. D'accord. Et il s'appelle Omega.
Omega?
Omanga.
Après, il y a le petit sous-titre qui est Alien Megalo sous contrôle.
D'accord, ok. C'est important, des fois,
oui,
sous-titre.
Exactement. Ah ouais. Le sous-titre est très important.
Ça permet de comprendre bien des choses, j'ai envie de dire.
Oui.
Si j'avais pas vu la version sous-titrée de Bible Black,
eh ben, on n'aurait pas compris.
Quoi, hein? Pourquoi j'aurais eu un intérêt à regarder cet animé, quoi? Voilà, si on comprend pas l'histoire, c'est nul.
Bah oui, surtout Bible Black.
Et bah voilà, et en parlant de Bible Black, et bah on va enchaîner tout de suite avec Kulodo, on l'a plus
trop. Oui. L'acteur principal du manga. Ouais.
Il est noir, il aime la Bible.
Alors, c'est tout moi.
C'est marrant comment t'as dit Bible. J'ai pas pensé à ce mot-là.
Alors, Kulodo, toi, ce soir, tu seras jeu vidéo, quoi.
Ouais.
Voilà.
Jeu de baston.
Jeu de baston avec, avec stick arcade. Parce que t'es un puriste.
T'allais faire une blague sur le stick, un truc comme ça, non?
Non, j'ai dit puriste.
Un puriste si tu veux.
Ok, d'accord. Donc, alors, tu vas nous parler de quel manga?
Non, c'est un jeu vidéo.
Ah, ok.
C'est Blazblue. Hein? Blazblue Central Fiction.
Oh oui.
Okay, Blazblue. Autrement appelé Bible Black, le jeu vidéo.
Grave.
Mais c'est vrai
Bible
que
Black RPG, tu sais.
Ça, ce serait énorme.
Alors. Donc, allez, donc, ça, c'est du ouais. Donc du coup, alors Blazblue, c'est un jeu de baston dans quel genre?
Du genre où on se tape dessus.
Ok, super. Wow. 2D, 3D.
Merci.
Abruti.
Wow.
Ah bah oui, 2D, voilà.
C'est bon. Arme, pas arme, boost, pas boost.
Ok, d'accord.
Non mais, et musique, et musique.
Eh bah allez, on va enchaîner avec celui qui parle, c'est notre ami Chamallow.
Wouhou.
Ah. Expert en chat.
Bon bah je parle plus.
En tout genre. Non, je rigole. Alors Chamallow, ça va?
Oui, super cool.
Alors ce soir tu nous parles de quoi toi?
Alors je vais vous présenter quelques petites créatures mythologiques japonaises qui sont tirées de jeux Pokémon par exemple.
Comme à l'époque où tu nous avais fait le Kappa.
Exactement.
Et le Baku.
Exactement.
Que d'aventures, hein, j'ai envie de dire. On a vécu des...
Et oui, et bah accrochez-vous parce que là ça sera encore pire que la semaine dernière.
Et bah on s'accroche, t'inquiète pas quoi. On est bien accrochés. Alors donc du coup... On parle donc maintenant de la touche féminine. Cette fois-ci, il n'y aura plus personne d'autre à sortir. C'est notre ami Lorato.
C'est moi, c'est moi. Ouais.
J'allais dire l'homme qui court bizarre. Enfin, la femme qui court bizarre, bien sûr. L'homme-femme, comme certains l'appellent.
C'est ça.
Donc, jamais su.
On n'a jamais su. Voilà. Ouais, voilà, ouais. On sait qu'elle est vivante, c'est tout ce qu'on sait. Alors du coup, Lorato.
Je finis la petite série de la semaine dernière, sachant que j'ai retenu ma leçon et celui de cette semaine sera un peu plus court.
Et on s'est arrêté au moment où les chiens étaient mangés et domestiqués. Voilà. Peu importe l'ordre d'ailleurs.
Dossier sur la préhistoire au Japon, c'est ça?
Dossier sur la préhistoire au Japon, voilà.
Voilà, exactement. Où t'as enquêté.
Voilà.
Entendu, ouais.
Je suis allé sur place avec ma petite voiture.
À l'époque,
ma voiture a remonté le temps.
Elle a sorti sa DeLorean du garage. Elle a remonté.
Et j'ai remonté le temps.
D'accord.
Après,
okay.
Y a un Stegosaurus qui m'a marché dessus.
Et ta machine était cassée, ça t'a handicapé.
Eh bah, écoute, on verra ça plus tard dans la suite de l'émission. Évidemment, vous aurez un petit dossier surprise. Vous aurez l'actualité et surtout vous aurez la musique. Et pour vous faire plaisir, vu qu'il y a le film de SAO qui vient de sortir au Japon, eh ben, je vous propose le thème. C'est toujours chanté par la même chanteuse. Elle aussi, c'est comme Yuva World avec Blue Exorcist, quoi.
Ouais, s'il n'y a pas de SAO,
eh ben, il n'y a pas de travail. C'est simple que ça.
Pas de fric.
Allez, la chanson s'appelle Cache de ma main et c'est tout de suite en toute exclusivité sur, sur Tokyo Ubi, j'ai envie de dire. Je connais bien cette chanteuse, hein.
Ouais, c'est sûr, mais c'est toujours sympa, hein. C'est entraînant.
Ouais, voilà, ça donne envie de, d'aller jouer aux jeux vidéo, tiens.
Et comme toujours, les paroles m'ont bien, bien touché.
Ah, j'ai une petite question, tiens. Si vous deviez rester enfermé dans un jeu vidéo, ce serait lequel?
Putain, ça serait, Nintendogs.
Attends.
Ah, bah oui. Ah, ça c'est pour Rémi, ça.
Animal Crossing?
Ah, attention, il y a Haro, il prend pas cette question à la légère.
Ouais, j'étais en train de chercher un.
Question difficile.
J'étais en train de chercher un jeu de
boules. Ah, pour Ludo, c'est Bible Black RPG.
Ah, bah, je pense, tu serais quoi? Je serais dans Playboy le jeu.
Ah, d'accord.
Putain, c'est qu'il existe.
Et ça existe.
Sur PS2.
Mais c'est juste en fait, tu vois, pour un monde cool.
Pour un monde cool, c'est bien. Ouais, j'aime bien être cool, j'aime bien pas me prendre la tête, quoi.
Non, moi je serais bien dans Dark Souls, tiens.
Non, non, non. Bah, en vrai, dans Pokémon, ça peut être fun.
Ouais, oui. Pokémon, franchement, ça peut être cool. Tu sais que tu meurs pas, même si tu prends des coups de jus et tout. Non, ouais, pas bête.
Non, un monde pas trop dangereux, quoi. The Witcher, c'est un peu dangereux. Dark Souls, on en parle pas.
Skyrim, c'est sympa.
Ouais, Skyrim aussi, c'est un poil dangereux.
Terraform Mars, c'est plutôt cool, je trouve.
Ouais, c'est super sympa.
Mars,
ils sont trop mignons.
Portal aussi, oui, c'est un peu dangereux.
Portal.
C'est stylé, bon,
allez.
C'est dangereux.
Maintenant, ce que je propose, c'est d'attaquer tout de suite avec les fameuses news manga et animé.
Ouais.
Donc, ouais, ouais, pourquoi pas. Alors, le film Sword Art Online, donc, est sorti, il livre ses premiers chiffres. Et ben, ça marche très bien. Et ça marche surtout, en fait, à l'étranger. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez beaucoup d'avant-premières qui sont sorties un peu partout dans le monde. Notamment, en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis et même au Vietnam. Et donc, du coup, eh ben, il a généré de très bons revenus, alors que ce sont que des avant-premières, quoi. Genre, une ou deux séances dans le pays, quoi. Donc maintenant, eh ben, reste à savoir ce qu'il a donné face, eh ben, voilà, aux vrais chiffres, ce qu'on attend d'un vrai sortie cinéma, quoi. Sachant qu'il va sortir en France le 17 mai prochain. Peut-être à Kinépolis, sait-on jamais. Peut-être un malentendu.
On sait jamais, oui.
Bah ouais, je pense que c'est un super film, mais en fait, non, c'est un dessin animé.
Après, pourquoi pas,
on continue avec Kekka et Sayson, donc du coup, qui va avoir le droit à la saison 2. Ça commencera en octobre 2017. Un dessin animé qui va plaire à certains types de personnes, vu qu'il s'appelle Babysitter. Et voilà, c'est l'adaptation d'un manga qui sort chez Glénat. Vous aurez compris, c'est l'histoire d'un mec qui doit garder des petits-enfants. Ça sent l'aventure.
Ouais.
Sinon, il y a un autre manga qui s'appelle Ramen Daisuki. L'histoire d'une lycéenne. Alors, on pense qu'elle a pas de passion dans la vie, si ce n'est qu'elle adore faire des ramen. Et en fait, eh ben, c'est comme Food Wars, sauf que c'est avec des ramen, quoi. Elle va manger des ramen et elle va partir dans d'autres mondes, quoi. Hein? Ah oui, c'est vrai que c'est une fille aussi. Il a oublié ça, quoi. Et sinon, ben, c'est tout. Je pense qu'au niveau des news manga, on va pas trop vous en parler, sachant qu'on prépare déjà plein de dossiers par rapport aux sorties qui continuent, bah, justement, d'arriver, pendant tout le mois d'avril, vu que c'est le mois de la rentrée. Et on en parlera plus tard dans les prochaines émissions. Maintenant, il est temps de parler d'un dossier manga. Et justement, notre ami Haro nous a fait rêver. Il nous a parlé d'un truc à l'extraterrestre, quoi. Si ça, c'est
exactement
pas le rêve. Donc, du coup, un manga qui sort chez Kazé, c'est ça?
Tout à fait.
Et qui s'appelle?
Omega Alien Megalo sous contrôle.
Ah, ok, d'accord.
Ça, c'est du nom qui pète, ça, tu vois.
T'as pas un truc abrégé, un peu?
Omega.
Omega. Allez.
Allez, vas-y, c'est parti.
Alors, du coup, pour commencer, c'est un manga de Tomohito Oda. Mm-hmm. Oui, comme Eiichiro.
C'est son fils?
Peut-être. Mm. On sait pas.
Mais t'as rien à voir.
Non, sans doute. Très probablement. Il est en 3 volumes, sorti en 2014 au Japon et le 27 janvier 2016 en France, mm-hmm, chez Kazé. Donc ça va, c'est plutôt récent. L'histoire commence avec notre héroïne qui s'appelle Shio Oshino, qui est une justicière dans l'âme et qui défend tout le monde au lycée en pétant la gueule, tu vois, des méchants élèves.
Ça, j'aime bien les gens.
Sauf que le problème, c'est qu'en fait, en faisant ça, parce que là, c'est vraiment une grosse bagarreuse et tout, ben elle s'attire une réputation de racaille. Mais genre vraiment de grosses racailles. Genre personne, enfin tout le monde a absolument peur d'elle. Même les profs, tu vois, genre quand elle va dire un truc gentil, ben ça va être déformé. Genre par exemple, elle va dire je peux partir plus tôt parce qu'il faut que j'aille aider à l'auberge. Ben dans la vision du prof, ça va dire. Ça va être, j'ai un deal de cam à faire, si jamais ça foire, je te pète ta gueule.
Ah,
mais tu vois,
je sais où te trouver.
Ça va être que des trucs comme ça.
D'accord, ok.
Et donc, du coup, un
on
jour.
Rappelle un mec qui s'appelle Angèle, ça.
Oui, exactement.
Parce qu'il va
lui, c'était pas que dans la tête du prof.
Il a un couteau à beurre dans sa poche, c'est trop drôle.
Exactement. Et un jour, ça va super bien. Alors qu'elle se baignait dans la source thermale familiale, parce qu'en fait, son auberge, c'est une source thermale.
Ah bah bien,
excellent. Il y a Dijiraoki Seko Omega qui vient s'écraser et péter le toit de. La jeune Shio Oshino avec son gros engin, c'est comme ça qu'elle raconte l'histoire.
Okay,
c'était son vaisseau spécial, je présume. Enfin, je précise. Mm. Pas je présume. et du coup, il va prétendre contrôler la Terre. Et en fait, c'est un extraterrestre super balèze qui contrôle l'électricité et tout.
D'accord.
Et là, un ancien ennemi de Omega arrive et kidnappe les donc Shio et Omega. Et il va lui mettre une antenne sur la tête. Et en fait, et ben ça annule tous ses pouvoirs et il peut le contrôler grâce à une télécommande. Et donc
j'adore
du coup,
la musique.
Shio va voler la télécommande au méchant extraterrestre, réactiver les pouvoirs de Omega. Omega va péter la gueule et à partir de là, ben vous pouvoir contrôler l'alien. Et du coup, il va s'en suivre une série d'aventures pour que Omega en fait retrouve ses libertés, vole la télécommande à Shio et essaye de contrôler la Terre.
D'accord.
Et okay. Plein de petites histoires avec Shio et sa réputation de racaille à son école et tout.
En tout cas, c'est une belle histoire.
Oui. Très profonde.
D'accord. Ok. Alors, du coup, c'est quoi les points forts de ce manga selon toi?
Bah, c'est l'humour aussi déjà. C'est clairement un manga comique. Et pour une fois, c'est un peu con parce que même s'il fait que 3 volumes, ben bah, c'était sur le coup une histoire qui pouvait durer un peu plus, quoi. Genre, peut-être une dizaine de volumes. Il y avait de quoi de faire des situations marrantes. Parce qu'on voit un peu l'évolution de Omega qui est grave vantard et tout, qui passe son temps à essayer de voler le truc et petit à petit, il va finir à s'attacher à Shio. Et ça aurait pu, comment dire ça? Bah, ça aurait pu durer un peu plus longtemps.
D'accord, ok. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a? Le dessin, il est comment?
Bah, ça va, le dessin est plutôt bien. Mm-hmm. Il est beau. Et pour donner un petit ordre d'idée aussi, je vais dire. En gros, Omega, quand il a tous ses pouvoirs, qui sont, je rappelle, l'électricité, il a une force de 530 000. C'est juste un chiffre, il n'y a pas d'unité.
D'accord.
Quand il désactive grâce à tes commandes, il passe à 0,2. pour donner une comparaison, un humain, c'est une force de 1. D'accord. Et Shio, elle a une force de 4. C'est vraiment trop balèze.
Et au niveau de le manga, tu m'as dit qu'il se terminait au bout de 3 volumes. Est-ce que c'est une vraie fin ou pas?
Non. Non, c'est pour ça qu'ils auraient largement pu continuer. En fait, c'est une fin genre.
Totalement ouverte quoi.
Ouais, non, mais plus qu'ouverte quoi. C'est genre. En fait, pour moi, il n'y avait pas de fin, c'est grave con. Ouais, limite, ouais. Carrément même. Mais je trouve ça grave dommage, parce qu'en plus, l'histoire elle était plutôt fun, il y avait de quoi durer quoi. Mm-hmm. Et de faire des. Enfin, ça aurait été un manga genre style, tu sais, Dr. Slum quoi. Une petite histoire drôle pour se détendre, on va dire.
Dr. Slum, c'est en
Et bah,
mais oui.
Du coup, moi j'ai hâte de voir la note que tu lui as mis alors.
Et ben.
Est-ce que c'est une note qui fait mal ou pas?
Non. Allez, franchement, j'aurais mis 16 parce que quand même il a bien fait marrer. C'était un bon manga, mais c'est vrai que j'ai été déçu sur le fait qu'il dure pas plus longtemps.
Ah ouais, c'est peut-être un manga qui a tout simplement pas.
Oui.
Très
c'est ça, marché, c'est, sans doute.
D'accord, ok. C'est triste, hein.
C'est dommage parce que le concept était marrant.
Alors pour une fois, d'habitude, je suis le premier à gueuler pour les mangas qui durent en longueur tomes. Et en longueur à 70 tomes. Mais là, genre, allez, peut-être 12 tomes, c'est pas non plus grand-chose. Et
ouais, mais
faire.
Toi, t'es un mec qui aime le juste milieu.
Exactement.
Quoi. Ouais, voilà. Tout à fait. Là, je comprends. Ok, d'accord. Bon bah écoute, on restera sur ces notes là et mais après écoutez, au moins c'est un beau cadeau.
Bah oui, si vous voulez une petite série assez sympa et courte donc du coup pas cher, et ben voilà. Foncez sur ce manga là.
C'est vrai que c'est pratique ça.
Bah dans le même et genre, moi je conseille un manga qui s'appelle One Piece.
Oui. Voilà, ah, c'est court, bah, pas trop cher,
pas trop de tomes.
Exactement. Non, pas trop de tomes.
Allez, on applaudit Haro. Il est fort ce Haro, hein.
Ouais,
quel homme. Allez, donc du coup, vous êtes toujours sur Couleur FM pour l'émission Tokyo Humé. Maintenant, ce que je vous propose, on va continuer avec le dossier de Shamalo, tiens.
Wouh! Génial!
Là, il dit, ah ouais, du temps!
Je suis... Allez. Bon, bref, c'est pas grave.
C'est parti.
Ok,
donc,
c'est
coup,
parti.
Ce soir, tu vas nous parler de quoi, toi?
Alors, je vais vous présenter trois créatures mythologiques, le Nukekubi, le Baku et Senpei Hayashiya.
Et le Baku, tu l'avais pas déjà fait?
Non, le Baku, jamais.
Non,
pas du tout.
Jamais, c'est une légende.
c'est une légende urbaine.
Et du coup, je vais commencer par la petite anecdote sympathique. Est-ce que vous connaissez tous le personnage, le Pokémon, je dirais même Kulbutoke? Oui. Celui qui fait Kulbutoke, ok. Voilà.
Travail d'imitation.
Alors
oui,
voilà, oui, je fais bien la voix exactement. En anglais, ça se dit why not, et pourquoi pas. Et du coup, le nom, le nom, il vient vraiment comme ça.
Why
et du coup, ce Pokémon vient d'un acteur en fait de théâtre qui arrêtait pas de se frapper la tête en disant exactement madame. Et puis bah, il se trouve que cette intonation et bah donnait ce nom en japonais puis en anglais.
Ouais, c'est marrant ça.
Et c'est de ça que
alors,
vient le Pokémon,
l'intonation
en fait.
Exactement madame, ça fait why not en japonais.
Voilà, c'est ça. Enfin pas why not enfin ça fait why not en anglais mais en japonais je sais pas ce que ça fait.
Why not?
Mais voilà, en gros, ça vient de cet acteur. D'accord. Qui arrêtait pas de faire ça. Il était connu
mal.
Pour ça d'ailleurs.
C'est pas mal, c'est une belle anecdote.
Exactement.
Du coup,
ensuite,
pourquoi il a cette gueule là? C'est pas une créature japonaise particulière, c'est juste
non, c'est juste qu'il est moche et puis
D'accord.
il se tape la tête. Voilà.
C'est sympa.
Et puis bah il est bleu mais ça on sait pas pourquoi.
Non. Faire un Pokémon.
Ensuite, je vais commencer à vous parler des vraies créatures mythologiques, c'est-à-dire le Baku. Alors, le Baku, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une espèce de tapir qui se nourrit des rêves et des cauchemars souvent des enfants parce que c'est des pervers et pédophiles. Non, c'est surtout parce que les enfants, ils font plus de rêves et de cauchemars que les adultes. Ce qui est vrai, en fait.
Ça dépend.
Et du coup, on observe pas mal d'apparitions de Baku dans la culture populaire, donc dans les jeux vidéo. En premier lieu dans Pokémon, avec Hypnomade et Soporifique, qui sont complètement dégueulasses. Il y a également Bakumon, bah oui, c'est la même racine.
Ah bah oui, je me demandais bien qui c'est qui t'avait donné cette légende d'ailleurs.
Bah tiens, c'est fou. Dans Naruto, on peut retrouver également une forme du Baku. Et dans Too Woo Project, sauf que là, c'est pas vraiment un tapir dégueulasse, c'est plutôt une bonasse. Enfin,
c'est quoi la forme du Baku dans Naruto?
Je me souviens plus.
D'accord, bah merci.
Mais bon, de toute façon, il y a une référence qui se trouve là-dedans. Du coup, vous pouvez aller chercher dans les 750 épisodes, si jamais vous avez la patience.
Bah les 72 volumes, cherchez.
On l'aura.
Je l'aurai un jour.
Vous l'aura. Alors ensuite, enfin, je vais vous parler du Nukekubi. Alors du coup, qui est une créature mythologique japonaise également. Alors qu'est-ce que c'est que ce Nukekubi? C'est une espèce de yokai sexy qui a une apparence humaine le jour, donc une apparence de corps dans un corps de femme, et qui la nuit se sépare en deux. La tête va quitter le corps et va voler pour aller mordre les gens et le corps reste inerte pendant ce temps. Voilà, c'est assez glauque. Elle se nourrit de sang et elle est obligée de retourner jusqu'à son corps avant le lever du soleil, sinon c'est la mort. Et du coup, pour combattre ces saletés, les humains peuvent tout simplement cacher le corps pour empêcher le Nukekubi de retrouver le corps avant le lever du soleil. Alors le Nukekubi, qu'est-ce que ça veut dire en japonais? Ça veut dire littéralement cookie se détache. Pas le cookie, mais le cookie se détache. Il peut être confondu avec une autre mythologie japonaise qui s'appelle le Rokurokubi. Bon, c'est à peu près pareil, sauf que la différence, c'est que le Rokurokubi a juste la tête qui s'étend et ne se détache pas. Voilà, il se balade généralement en meute du coup, et il y a des hypothèses qui sont soulevées comme quoi par exemple des humains peuvent contracter ce genre de phénomène suite à du somnambulisme avec l'espèce d'âme qui se détache du corps. Bon bah du coup c'est assez spirituel, mais bon, ça peut être une hypothèse, pourquoi pas après tout. Et il y en a dans la mythologie, l'histoire raconte que c'est également une malédiction qui peut être contractée par toutes les femmes et qui peuvent les passer à leurs enfants. Sauf que du coup les femmes,
le démon c'est les femmes.
Ouais, excusez-moi. Ah ouais, bon, et du coup, ceux qui sont atteints de cette malédiction vont le passer à leurs enfants, et puis la malédiction se révèle à partir de l'âge adulte en fait. Alors souvent, les enfants qui sont atteints de malédiction, on le sait pas jusqu'à s'ils soient adultes, mais après, on les renie et on les vend, etc. Voilà, comme ça, c'est très sexy. Et du coup, ce super Nukekubi, il y a une apparition dans la culture populaire également, notamment dans le jeu Pokémon. Je sais pas si vous voyez, c'est le Pokémon qui s'appelle Feu Forêve, donc une espèce de petite bestiole. On a fait la comparaison.
Mais il a pas le coup qui se détache, Feu Forêve.
En fait, c'est une tête qui est volante. Et puis on peut également.
Ah ouais. Ouais, vu comme ça. Ouais.
On peut faire la comparaison.
Ah oui, non, j'ai confondu avec un autre.
Ah oui. Oui, en effet, ouais. En plus, il y a également les perles rouges sur le cou qui rappellent justement cette espèce de séparation entre la tête et le corps. Et il est également connu pour pousser des cris très stridents, exactement comme le Nukekubi. Et donc du coup, si je devais donner une note à ce truc, non, je rigole. Bon bah du coup voilà, c'est tout pour le Nukekubi.
Eh ben franchement, c'était super intéressant, j'ai adoré. Ah ben d'abord.
Génial. Wouhou.
Donc alors, rappelle-nous le nom de ces trois créatures.
Alors, c'était le Nukekubi que je viens de présenter, le Baku, le tapir, et le Senpai Hayashiya, qui est l'acteur qui est à l'origine de Kulbutoke.
D'accord, ok. Eh ben écoute, franchement, c'était super intéressant. On aime bien découvrir ce genre de d'histoire. Ouais, parce que tout simplement ça change quoi. Et en plus intéressant. C'est vrai que Kulbutoke, on s'est beaucoup posé la question, hein. Qu'est-ce que ce truc?
C'est vrai que moi j'arrive pas à dormir à cause de ça.
À ce point.
Okay. Après, il est choqué, genre.
J'étais là, je veux savoir.
Et je me tape la vérité. Je veux la vérité.
Et après je fais mais bien sûr. Non, je rigole.
Eureka.
Allez, vous êtes toujours sur Cool FM pour l'émission TQM. Maintenant on fait quelques news jeux vidéo. Alors qu'est-ce que je pourrais dire? Eh ben après avoir sorti Kingdom Hearts 1.5 et Kingdom Hearts 2.5, eh ben maintenant ils ont sorti Kingdom Hearts 1.5 plus 2.5.
Wow, ça fait 4
ouais.
Heures.
Donc en gros vous aurez sur PlayStation 4 tous les Kingdom Hearts réunis en attendant le fameux Kingdom Hearts 3 qu'on attend depuis une dizaine d'années quoi. C'est pas grand chose quoi.
Non, c'est
vrai. On continue avec Super Mario Run, donc du coup qui est sorti sur Android, qui a beaucoup marché mais un peu moins que ce que Nintendo pensait. Voilà. Faut savoir que le jeu est placé à 117e place des jeux mieux placés sur Apple Store, tandis que Fire Emblem Heroes, lui, il est à 48e place. Donc il fait mieux.
Voilà. C'est un jeu payant, non?
Non, il est gratuit.
Eh ben voilà, c'est peut-être ce qui explique cela.
Ouais,
quoi.
Gratuit, Fire Emblem Heroes.
Voilà. Et Mario, non. Mario, il est
gratuit. Mario, il est à 3€.
Bah voilà, non, mais
3€ pour faire courir un Mario sur un truc qui sert à rien.
N'importe quoi.
Tu m'étonnes qu'il soit
pas. On continue avec les jeux de portable. Vous dire qu'il y a Gardien de la Galaxie va sortir, ainsi que Yo-Kai Watch. Je vous laisse choisir
sur portable.
Sur téléphone portable. Bah, pas sur tous les téléphones portables, bien sûr.
Sugoi Desu.
Ensuite, The Witcher. Donc, juste pour vous dire que le jeu a cartonné dans le monde. On a les chiffres après les années qui ont passé. 25 millions de jeux vendus dans le monde. Ce qui est pas rien, voilà. Et donc du coup on a le petit Haro qui en fait partie justement.
Exactement.
Alors toujours satisfait ou pas?
Oui. Voilà. Ça reste un jeu incroyable.
D'accord, ok. T'y crois toujours pas? T'es le mec qui...
Non, toujours pas. J'arrive pas à croire que ce jeu est sorti.
D'accord, merci. Et donc aussi on continue avec Injustice 2 qui a révélé pas mal de nouveaux personnages, notamment des méchants. avec, alors, vous avez Gorilla Grodd, donc pour ceux qui connaissent, qui est un gros gorille, faut pas chercher plus loin, super. Qui est très intelligent, voilà. Vous avez Bane, ou Ban, comme certains l'appellent. Vous avez Captain Cold, ou Captain Froid aussi, comme certains l'appellent. Et le fameux Épouvantail, qui a une très bonne gueule, j'aime bien. Alors, c'est pas Épouvantail, genre, magicien d'ose,
c'est
hein,
là, Batman.
Ouais, Épouvantail classe, quoi. Et voilà, et donc à découvrir avec la sortie du jeu, ça sera le 18 mai prochain, et on vous promet déjà un dossier. Ouais, c'est obligé. À Tokyo, on aime bien faire des promesses. Par contre, on n'est pas tenu de, voilà, de les respecter. Bah ouais, ce serait trop facile.
Bah oui.
Allez, vous êtes toujours sur Quoi FM pour l'émission Tokyo, mais maintenant vous avez Kulodo qui a joué à un jeu exprès pour vous.
Exactement.
Il en avait rien à foutre. Il voulait pas. Il avait d'autres choses à faire, notamment travailler pour payer son loyer. Mais non,
bien sûr.
Il a préféré vous concocter ce dossier-là, et donc le jeu s'appelle
BlazBlue Central Fiction.
Voilà, BlazBlue.
Non, pas, non, non, non.
Non, BlazBlue. Blazé, comme blazé.
Voilà, comme
BlazBlue.
Ok, d'accord, ok. Alors, c'est parti pour le dossier de Kulodo.
Donc, d'abord, un petit point vite fait sur la série des BlazBlue, pour ceux qui connaissent pas. C'est une série de jeux de combat en 2D développée par Arc System Works, donc les gars à qui on doit Guilty Gear. La série compte 4 jeux principaux. Calamity Trigger, sorti en 2008, Continuum Shift en 2010, Chrono Fantasma en 2012, et du coup Central Fiction cette année.
D'accord, ok.
6 jeux dérivés, donc il y a plus de jeux dérivés que de jeux officiels, qui sont principalement sur téléphone et 3DS. Donc en fait, c'est plus des mini-jeux.
Il y en a un sur 3DS ?
Oui, en fait, c'est plus des mini-jeux. J'en suis sur 3DS, c'est un espèce de hack and slash vu de 2D. C'est bizarre, enfin, c'est plus un petit jeu tout pourri, quoi.
D'accord.
D'accord.
Et c'est un jeu qu'on trouve que sur le Play Store. Donc il y a aussi 4 romans, 5 mangas et un animé qui sont sortis. Et qui sont quand même essentiels pour la compréhension totale de l'histoire de BlazBlue. Ce que je pourrais un peu reprocher à la série, c'est que si juste tu fais un jeu, bah tu comprends rien.
D'accord.
Faut vraiment tout avoir.
Bah, ce qui est bien aussi, c'est que ça rajoute un intérêt au fait d'avoir les anciens jeux.
Oui, c'est vrai. Ça développe le truc.
Voilà.
Et bah, d'ailleurs, on va revenir sur ce point après. Donc maintenant, on va parler de Central Fiction, donc qui est donc le 4e jeu officiel de la série. Mm-hmm. Donc il est sorti au Japon sur bande d'arcade le 19 novembre 2015, et il est sorti chez nous le 4 novembre 2016 sur PS3 et PS4.
D'accord.
Au niveau des nouveautés par rapport aux anciens, donc il y a 35 persos jouables, dont 7 nouveaux, donc je vais vite fait vous le présenter. Donc il y a Ibiki Kuaku, qui est clairement un clone de Levi dans l'attaque des titans, mais en bleu.
Waouh, c'est il a la classe, hein.
Ah, le clash, le clash.
La peau bleue ou les cheveux bleus? Ou tout bleu?
Là, il a les cheveux, la tenue, enfin il est tout bleu, quoi.
Ah merde, c'est un avatar bleu.
Exactement.
Avatar titan.
Il a la peau normale, mais genre les fringues et.
Ah, les fringues ils sont bleus.
Voilà,
ah,
et ses cheveux aussi.
Ah.
Est-ce que c'est bleu clair ou bleu foncé?
On s'en fout.
C'est beau.
Il y a Naoto Kurogane, qui est un mec qui se bat avec son sang, et qui est aussi le héros du manga Blood Edge Experience, donc qui est un des mangas du coup qui est essentiel pour comprendre pourquoi ce perso est là.
D'accord.
Il y a Nine the Phantom.
C'est celui qui contrôle le sang, c'est ça?
Ouais, c'est lui. Okay. Il y a Nine the Phantom, qui est un des 6 héros, parce que vite fait dans l'histoire, il y avait 6 grands héros
de la légende.
Voilà, exactement. Et qui est d'ailleurs le 5e jouable. Il y en a qu'un pour le moment qui est pas jouable, même si on le connaît depuis le premier jeu, mais on sait pas pourquoi il veut pas le faire jouable. Et du coup, Nine the Phantom, c'est la sorcière. Qui fait des invocations, elle se bat avec le feu, la glace et tout. Il y a Izanami qui est le principal méchant de la série.
Oh, Izanami, ça rappelle quelqu'un.
Moi aussi, ça me rappelle quelqu'un.
Smite.
Exactement.
En tout hasard.
Alors, je sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit juste ES. Donc, je suppose qu'on va dire
S.
Exactement. Donc, c'est une fille qui se bat avec une épée et que c'est l'héroïne du manga, du jeu X-Blaze. Donc, qui est le visual novel qui est sorti sur PS4 de la série BlazBlue.
D'accord, ok.
Ensuite, il y a Mai Natsume qui est l'héroïne du manga Remix Art qui se bat avec une lance. En fait, tous les nouveaux, c'est que des persos tirés des trucs hors série, quoi. Et il y a Susano qui est en fait.
Bah, tiens.
Non, mais.
Smite.
Celui-là, je peux pas vous en dire trop parce que, en fait, c'est un autre personnage du jeu sous une autre forme et ça serait du spoil. Donc voilà, je peux vous dire que ça.
D'accord, ok.
Et maintenant, gros point. Alors, les améliorations que le jeu a subies depuis le jeu d'avant, il y en a 3. Alors, il y a le temps de l'overdrive qui est affiché. Mm-hmm. Donc quand on passe en overdrive maintenant, il y a un chrono qui te le dit. L'icône du perso réagit en fonction des dégâts. Donc genre si on prend des coups, la tête de ton perso en haut, elle va faire aïe.
D'accord.
Ah, super amélioration.
Aïe.
Et il y a la seule vraie nouveauté, on va dire, c'est un truc qui s'appelle Lexid Axel. C'est un nouveau combo disponible qui est unique à chaque personnage et qui est disponible uniquement lorsqu'on passe le personnage en overdrive.
D'accord, ok. Mais on va dire la grosse nouveauté sur tous les nouveaux persos, quoi.
Oui, voilà. Et en fait, c'est le gros reproche que je ferais à BlazBlue en général. C'est que le jeu tourne depuis 2008, c'est le même moteur de jeu. Donc c'est un moteur qui a déjà presque 10 ans. Donc du coup, il n'y a pas vraiment d'amélioration entre chaque jeu. Et je trouve que ça fait un peu cher payer les quelques nouveaux personnages qu'il y a à chaque fois. Parce que là, vraiment, les améliorations, le perso qui ferme les yeux quand il se prend un coup, on s'en fout, on regarde même pas quand on joue.
Moi, c'est le premier truc que j'ai regardé. Hein.
Non,
c'est le
mec. T'es vraiment pinailleur. Attends, à ce moment-là,
quoi. Le perso qui faisait, il avait l'air de dire non, mais franchement.
Donc voilà, c'est le, vraiment le gros défaut que je donnerais à la série, c'est que ça tourne sur un moteur qui est assez vieux maintenant. Même si ça reste très beau, les animations.
Ah, il est magnifique.
Ah oui, je suis d'accord. Ah, ouais. Les animations sont, sont magnifiques, les décors, décors sont super bien fournis, il y a des détails de partout.
Parce qu'après, c'est vrai que ça reste un jeu à de façon 2D, donc voilà. Après, je pense pas qu'il y a tant de choses.
Il y a pas vraiment
que
besoin
que
de beaucoup de puissance.
Quoi.
Voilà. Et du coup, bah, il y a des particules, enfin, il y a de la couleur, c'est vraiment très joli.
Mais c'est vrai que la critique principale qu'il y avait dans le premier volume, et justement, c'est ce qui rectifie à chaque fois, c'était le nombre de persos.
Ouais, ouais, ouais.
Enfin, c'est vrai que dans le premier, il y en avait très, vraiment peu.
Dans le premier jeu, ouais. Il y avait 12 persos seulement.
Voilà. Et tandis que là, maintenant, on a quand même un bon booster, quoi.
Ouais. Après, le jeu reste quand même très bon, hein. Ça reste un BlazBlue, donc si vous avez joué au précédent, bah, c'est la même chose, il y a des nouveaux persos en plus. Le jeu a été plutôt bien reçu, il a reçu 85 sur 100 sur Metacritic.
Ouais.
Et 9 sur 10 sur Eurogamer, donc il y a un magazine américain qui est assez réputé pour avoir des critiques solides, quoi. C'est et pas juste on est payé pour dire des trucs bien.
Le truc qui est bien, c'est que t'as vraiment l'impression de jouer à un manga, hein. C'est ça, vraiment c'est impressionnant avec l'histoire et tout. Franchement, ils font plaisir justement aux fans de la saga et c'est ça que j'aime bien, quoi. Shamalou, moi je pense que c'est un jeu vraiment que t'adorais parce que toi t'avais fait un dossier à l'époque sur Guilty Gear.
C'est ça.
Et,
oui.
Et franchement, c'est quasiment la même chose, hein. T'as l'impression que. T'as limite l'impression que c'est le même univers.
Mais c'est ça en fait, voilà. C'est la même chose, il y a juste les personnages et l'époque qui changent.
C'est ça.
Mais il me semble que justement il y a même des théories sur internet comme quoi c'est le même univers.
Ah ça pourrait, bah de toute façon il pourrait clairement faire un crossover, quoi. Oui, bah, oui. C'est juste que après voilà, ça va permettre d'avoir un peu plus d'argent, quoi. Ok, d'accord. Donc si tu devais lui mettre une note à ce jeu.
Alors, je vais devoir mettre deux notes en fait, j'explique pourquoi. Alors, en tant que nouveau jeu, 13, parce qu'en soi il apporte pas énormément de choses, même si ça reste un excellent jeu. Et en tant que BlazBlue, bah c'est un BlazBlue, donc 17, parce que ça reste un très bon jeu de combat, très dynamique, avec un gameplay varié pour chaque perso. Voilà, le seul défaut, c'est qu'il apporte rien de vraiment de nouveau, mais ça reste un très bon jeu.
D'accord, ok. Donc voilà, bon jeu de baston 2D. Exactement. Bah c'est une des références, hein, de toute façon.
Ah oui, c'est sûr. Ouais.
Ok, alors, en tout cas, on vous conseille à tous, et on applaudit Clodo, s'il vous plaît. Il est fort ce Clodo. Hein.
Ouais, qu'est-ce qu'il est
vraiment, vraiment balèze.
Ah là là.
Non, il est trop fort. Je rigole évidemment.
Ouais, alors, je me disais aussi qu'il y avait un truc quelque part.
Vous êtes toujours sur Couleur FM pour l'émission Tokyo Humé. Bon, bah évidemment, on est obligé de passer par la case culture. Hein, désolé.
Non, allez, courez.
Donc, la semaine dernière, on avait eu droit à un super dossier sur la préhistoire. Et vous avez été nombreux. C'est pas une blague. À demander la suite, quoi. Il disait, eh, monsieur, vous avez pas le droit, quoi. Là, on nous met dans l'histoire.
On
nous annonce,
chien, là.
On nous annonce le chien domestique. Et vous arrêtez là. Vous arrêtez au chien domestique, quoi. On nous sort des cailloux. Enfin, bref, la totale. Et on s'arrête d'un coup, quoi. Eh ben oui. Vous savez qu'à Tokyo Humé, on est sadique. Eh ben, justement, là, vous allez savoir tout ce qui s'est passé après. L'histoire du chien domestique. Allez, c'est parti pour le dossier de Lorato.
Alors,
j'ai mis la pression.
Ah, parfait. Alors, donc on va commencer avec un petit rappel de ce qui s'est passé la semaine dernière, rapide. Dans l'épisode précédent, l'agriculture a commencé à se répandre dans la culture du chien domestique. Et le chien
domestique. On avait parlé de la poterie aussi. Hein.
Oui, c'est vrai qu'on avait dit, que pendant que nous on cultivait du crottin de chèvre, eux ils étaient déjà à Louis Vuitton.
Tu vois,
du coup, voilà.
On s'habille avec du crottin.
Non, pas du tout.
Ah bah pas bravo.
Mais il avait rien compris aussi.
Du coup voilà, donc la fin de la période, par contre, elle est marquée par le fait que les mecs ils font ouais mais moi j'en ai marre du 5 mètres carrés qu'on se partage à 30 là. Et
ils ont fait appel à Stéphane Plaza de l'époque.
Du coup il y a un effondrement du modèle sédentaire et ils redeviennent nomades.
Le modèle
sédentaire. Du coup voilà, donc ils arrêtent d'être cueilleurs chasseurs et ils se cassent, ils font genre moi je me casse, je vais à l'aventure, c'est vraiment trop cool, j'adore. Et du coup voilà, et puis après on va faire un petit saut dans l'histoire puisqu'on va passer à une période qui s'appelle le proto-historique. La proto-histoire, c'est le proto-historique, donc voilà. Donc on va passer à la culture yayoi. La culture yayoi, c'est un petit truc qui se passe.
C'est pas un truc d'homosexuel.
Ouais, c'est pas homosexuel.
Ça se passe 400 avant notre ère. Du coup voilà. Donc c'est il y a longtemps quand même, hein. Voilà, et ça vient d'une poterie en fait. Voilà, d'un type de poterie qui s'appelle le yayoi, voilà. Et du coup voilà. Donc alors le dossier d'aujourd'hui va être un peu plus rapide, je pense, que celui de la semaine dernière parce que il y a moins de
d'informations.
Ah, mince alors, quel dommage. Du coup voilà. Donc cette période, elle se caractérise elle se caractérise par quoi? C'est par par la riziculture inondée, oui c'est ça, bravo. Et du coup donc c'est les paysages typiques qu'on voit avec avec des riz inondés.
D'accord.
Avec des avec oui non mais c'est ça, avec les rizières, avec les plateaux, etc. Importé de Chine parce qu'ils piquent tout aux Chinois et aux Coréens et tout machin.
Oui, c'est des thugs.
Du coup importé de Chine et de Corée et qui s'étend jusqu'au 3e siècle. Voilà. Mmh. Donc aussi du coup vu qu'ils prennent du riz, eh ben ils apprennent à construire des greniers et ils font genre bah,
okay,
voilà.
D'accord.
Et puis du coup
c'est la voix qui dit riz dit grenier.
Bah logique,
mais
c'est
du
évident.
Coup, ils peuvent stocker leur récolte et c'est vraiment cool et ils sont contents et tout, tu vois. Et après, ils font pas âge de bronze et âge de fer, ils font les deux en même temps parce que le bronze et le fer, ils commencent à faire ça simultanément. Et du coup voilà. Et au départ en fait ils font ça pour je vous avais parlé de la semaine dernière du début des rites funéraires. Et ben là ils continuent les rites funéraires avec du bronze et du fer cette fois.
Wow.
Voilà et c'est beau. Hein,
là ils font comment du coup?
Putain, ils sont contents. Hein. C'est des grandes cloches en bronze. Des épées et des pointes de lance, des trucs comme ça qui sont retrouvés dans les tombeaux, qui sont cette fois-ci des gros tombeaux. Cette fois-ci, parce que j'avais dit la semaine dernière qu'on n'avait pas retrouvé énormément de distinction entre les personnes qui se faisaient enterrer. Et cette fois-ci, bah il y a des distinctions qui commencent à se faire puisque on voit des trucs qui des sortes de gros tombeaux,
de classe sociale,
des tertres funéraires qui sont énormes pour les chefs locaux et pour leurs familles aussi. Du coup voilà. Donc la population elle grandit puisque du coup ils ont des greniers avec du riz dedans. Donc, du coup ils commencent à grandir parce que c'est cool le riz et puis voilà et ils deviennent. Je vous avais dit la dernière fois ils étaient environ 10 000 sur l'île au début de leur époque et là ils sont à peu près 600 000 donc ils augmentent et ils ont presque doublé
ça
leur...
a bien poussé quand même.
Ah ouais de ouf, ils ont presque doublé leur chiffre en 200 ans en fait.
Ah d'accord, si on prend le recensement de l'époque
c'est ça,
voilà.
C'est ça, donc ils sont partis, ils sont arrivés à 1 million vers l'an 200 avant notre ère.
D'accord.
Du coup voilà. Pourquoi t'as mis Princesse Mononoke? Exactement.
Et pourquoi dis-moi. Pas
Mais non, ouais, c'était les Tobies, t'as pas reconnu.
Avant, je mets Koh-Lanta, y'a personne qui demande quoi que ce soit.
Et là,
parce qu'on connaît pas Koh-Lanta.
Comment tu oses mettre Princesse Mononoke?
Comment est-ce que tu oses toucher à Princesse Mononoke?
Du coup, voilà. Donc du coup, l'habitat en soi qui reste par rapport à ceux qui sont restés sédentaires, il n'a pas beaucoup évolué, donc ils restent dans leurs petits 5 mètres carrés de Paris, là, de la semaine dernière. Mais les villes, elles se fortifient parce qu'ils découvrent qu'en fait, ils se font la guerre et ils se font des bastons et ils se tapent sur la gueule. Donc du coup,
c'est marrant de taper les autres.
C'est ça, c'est trop marrant. Et du coup, ils commencent à fonder des trucs en hauteur, plus en hauteur. Et du coup, ils sont mieux protégés parce que c'est plus facile à défendre. Enfin, ça, c'est le même principe qu'au Moyen-Âge chez nous. Enfin, je veux dire, où on construisait les châteaux sur des petites collines. Mm-hmm. Et comme ça, on leur tirait dessus, on faisait genre tch, 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 comme ça.
Ah, super les bruitages.
C'était DJ à l'époque.
Du coup, voilà.
Et ça a fait moins peur.
Et la région, elle est pour la première fois citée. Elle commence à être connue par les Chinois qui la citent pour la première fois dans leurs écrits.
Ouais.
Et voilà. Donc et puis après, tout le monde s'en fout parce que.
Il l'appelle pas Sipangu.
Je ne sais plus.
Je pense que c'est le nom de base du Japon.
Mais t'as raison, c'est bien. Si t'as tort, par contre.
Je sais que le nom Nihon, c'est enfin le Japon.
Ouais.
Ça vient de, enfin ça veut dire pays du soleil levant.
Oui, mais ça, tout le monde le sait.
C'est ça. Et ce qui s'est passé en fait, c'est qu'en fait, il y avait des petites guerres entre la Chine et le Japon. Et en fait, le Japon, il appelait, enfin, il traitait un peu la Chine comme des sous-merdes et tout. Et en fait, il se considérait comme le pays du soleil couchant, du coup. Et donc du coup le Japon il s'est auto-proclamé pays du soleil levant et ça
genre parce pour que la petite mieux, tu vois.
Pour la petite anecdote ça n'a pas du tout plu à l'empereur chinois qui a un peu pété un câble et qui a fait genre quoi et tout machin.
Quoi
du coup voilà donc voilà je pense qu'on va finir là-dessus parce que voilà un petit empereur japonais chinois
grave.
Qui pète un câble c'est plutôt pas
parce
mal
on commence à s'endormir aussi.
Et puis aussi parce qu'on commence à s'endormir
ouais c'est vrai
regardez un rond il est complètement mort
ivre mort
pour lui donner une petite note quand même je donnerai un petit 18 au Japon c'est
la préhistoire
du Japon,
c'est intéressant.
Ça, on l'a jamais fait, ça. Je donnerais un petit 18 au Japon.
Un petit 18 au Japon, là, il est sympa, hein. J'aime bien le Japon.
Eh ben, allez, on l'applaudit très fort, s'il vous plaît.
Ouais.
Oui, mais il y a juste un petit truc. Alors, c'est vraiment que moi qui ai remarqué ça. En fait, c'est au moment où on parlait de Princesse Mononoké et que certains étaient outrés que j'avais mis cette chanson-là. En fait, il y a un moment, Haro qui a dit,
comment
t'as pu toucher à Princess
Mononoké?
Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai repensé, en fait, vous voyez, au film, j'ai dit, qui dirait ça? Et vous voyez, c'est la Merlou, là, vachement badass et tout. Ouais, et j'ai imaginé, en fait, en train de dire ça à Ashitaka, mais avec la voix de Haro, là.
Comment
tu veux toucher à Princess Mononoké?
Putain, waouh, l'intervention.
Il faudrait, en fait, revoir des films comme ça, mais genre, on double juste un personnage, tu vois.
Genre nous-mêmes, ça sent la balle.
Eh ben écoute, pourquoi pas un jour, si Dieu le veut, j'ai envie de dire.
Haro la Merlouve.
Voilà. Putain, allez, donc classe. Du coup, vous êtes toujours sur Cool FM pour émission TQM. Et j'ai envie de passer à l'été une chanson, je sais pas pourquoi, Christ. Je tombe là-dessus. Et ben, non, je vais vous passer le générique version anglaise de Pokémon, chanté par le chanteur Billy Crawford.
Excellent.
C'est tout de suite, en toute activité.
En vrai, il claquait.
Sur TQM. Ouais, ah ouais, ben j'aime bien en plus.
Il claquait.
S'il y en a qui veulent faire la chorégraphie, je ne fais pas la chorégraphie. I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my cause. I will travel across the land, searching far and wide. These Pokemon to understand the power that's inside. J'avais complètement oublié qu'il y avait une émission de radio à tenir aussi. Voilà le générique de Pokémon.
C'était beaucoup trop à fond.
Refoutu le boost. Hein. Bah, après le dossier de l'Orato, c'est sûr. Non, c'est le même.
Ah, ouais.
Salopard.
Il faut la réveiller là.
Mais Pokémon, le c'est préhistorique.
Alors, rien à voir. Bon, allez, donc vous êtes toujours sur Couleur FM. L'émission de Kumé 97.1. Tout de suite, eh ben, on va faire. C'est le mec qui dit 97.1. Imagine que depuis le début, je dis 97.1 alors qu'en fait, c'est.
Ah bah, oh mon dieu! Ah, c'était bon, finir de réveiller là!
Il a utilisé son pouvoir! Bon allez!
Putain, on dirait un Pikachu égorgé là!
On va faire les sorties manga! Allez, c'est parti! Ouais. Donc, on va commencer tout de suite avec les éditions Glénat avec le Gun! Donc, édition originale numéro 3. De Zalem au circuit du Motorball, Gali continue sa quête de sens, perdue dans les nimbes de l'amnésie. Mais une nouvelle rencontre est sur le point de bouleverser sa vie. On continue avec Kana avec le Assassination Classroom numéro 15. Un assassin hors du commun, surnommé le Petit Monstre, par Shiro, va se réveiller. Son incroyable puissance risque de mettre Monsieur Kolo au pied du mur. Et une véritable tempête va s'abattre sur la fameuse classe E. On continue avec les sorties Kazé.
Super.
Allez, donc du coup, c'est notre ami Haro qui va faire ça.
Non, moi c'était Soleil.
Bah allez, tu vas faire Kazé.
Eh ben, je vais faire Kazé. Concours Basket Replays Plus Volume 1. Satsuki Momoi vient une nouvelle fois de refuser les avances d'un garçon. Manager de l'équipe de basket du collège Taiko, elle est en réalité secrètement amoureuse de Tetsuya Kuroko, un joueur plutôt discret et sans charisme. Un jour après l'entraînement du club, elle est chargée par Seijuro, le capitaine, de rentrer avec Kuroko. D'abord aux anges, elle déchante rapidement lorsque le reste de la bande décide de se greffer à eux.
Ok, ensuite les sorties Pika.
Avec Fairy Tail volume 56, la situation sur les différents fronts de Magnoria est pour le moins instable. 4 Spriggan 12 ont été vaincus. Mais la tension est toujours à son maximum. Les membres de la guilde doivent continuer à se défendre contre ces mages d'une puissance hors norme.
Ok, ensuite sortie Soleil.
Bah écoute, du coup je vais le faire. Hein. Love in Progress volume 1. Lorsqu'on entre en contact pour la première fois de sa vie avec un garçon à l'âge de 15 ans, ça fait bizarre. L'amour est en marche pour Hinako. Hinako n'a jamais été très douée avec les garçons et a toujours fréquenté des écoles pour filles. C'est pourquoi aujourd'hui, alors qu'elle s'apprête à débuter sa nouvelle vie de lycéenne dans un établissement qui ne compte que 4 filles, elle est un peu nerveuse. En classe, elle se retrouve assise à côté de Mizuki, un garçon très taquin. Et quant au délégué Shun, il ne cesse de lui lancer des regards de mépris. Comment doit-elle interpréter le comportement de ces garçons?
Ah, j'ai limite envie d'avoir un dossier sous ça.
Moi aussi. Allez, à lire.
Sortie Delcourt.
Jojo's Bizarre Adventure, saison 8, Jojo Lion, volume 3. L'excellente surprise qu'est Jojo Lion n'en finit pas de nous étonner. Parvenant à conserver l'invincibilité des affrontements de stand, Araki permet ici au pouvoir de servir un scénario qui ne cesse d'intriguer et de captiver. Ce, en se payant le luxe d'exploiter la lignée des Joestar de manière totalement inédite. On ne cesse de le dire, rarement au début d'un... Attends. On ne cesse de le dire, rarement au début d'un arc Jojo's Bizarre Adventure n'aura autant passionné ses lecteurs, on en redemande clairement.
Allez, c'est tout pour les sorties. Non, je rigole.
Hashtag tristesse.
Allez, Lorato, sortis ton cam.
Food Wars, volume 16. Le festival Gekkyo entre déjà dans sa troisième journée. Soma et ses amis se démènent pour dépasser le défi du premier jour. Pour y parvenir, Soma tente une dernière offensive contre l'auberge Kuga à l'aide d'une nouvelle recette de tofu sauce épicée. La lutte contre Terunori Kuga, le 8ème siège, atteint son apogée.
Allez, c'est tout pour les sorties. Et on retiendra évidemment le
super du tofu
sauce. Miam miam.
Un peu gluant.
Exactement. Allez, donc du coup, vous êtes toujours sur Cool FM pour l'épisode de QMA. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est d'attaquer avec un dossier animé. Donc, c'est un dessin animé qui s'appelle Yojo Senki. Alors, Yojo Senki est un dessin animé qui est sorti à la rentrée là au mois de janvier. Donc, c'est tout frais. Et c'est un manga, enfin un animé, qui sort un peu de sentier battu. Alors, c'est tiré d'un light novel et c'est dans le genre militaire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, je vous lance dans l'histoire. Imaginez un monde parallèle qui ressemble clairement à, on va dire, l'époque de la première ou la deuxième guerre mondiale, plus la première guerre mondiale, j'ai envie de dire. Et donc en fait, dans cette univers-là, vous allez voir justement deux camps qui vont s'affronter. On a clairement l'impression de voir voilà genre l'Allemagne qui affronte les alliés. Et en fait, dans cet univers-là, c'est comme la guerre mondiale, sauf qu'en plus vous avez la magie. Quand je dis la magie, wow, c'est-à-dire que vous avez voilà
des chambres à
gaz magiques. Non, mais c'est la deuxième, c'est dans le plus déjà.
Dans ce situation. Alors, donc du coup, vous avez des magiciens. En fait, c'est comme des soldats, sauf que voilà, ils peuvent invoquer des sortes de pentacles, ils peuvent voler aussi et faire voilà des incantations assez puissantes. Hein. Bon, c'est pas genre dragon de feu ou autre quoi, hein. Mais voilà, il y a la magie en plus. Et donc dans cet univers-là, vous avez, on va découvrir dès le premier épisode. On va dire un haut gradé, un chef soldat. Sauf que la particularité, c'est que cette fille qui s'appelle Tania, je veux dire. Et ben en fait, c'est une petite fille. C'est une petite fille, mais wow, qui parle exactement comme un adulte, avec une voix d'enfant bien sûr. Mais voilà, autiste. Elle donne des ordres d'adulte. Elle dirige son équipe comme une adulte. Et c'est assez effrayant.
C'est une gamine. Elle fait de la magie.
En fait, elle a le physique d'une gamine.
C'est une magicienne.
Et c'est une magicienne, évidemment. Alors, évidemment, c'est très surprenant. Au début, on a l'impression qu'on va avoir affaire, vous voyez, à un manga un peu dégueulasse où, voilà, on a toujours la petite fille mignonne et tout qui va dire, genre, quand elle va voir des méchants, « Yamete kudasai !» ou un truc comme ça. Mais alors, pas du tout. En fait, il s'avère que c'est une fille qui est très dure. En fait, limite, on va oublier le fait que ce soit une petite gamine. Évidemment, chose qui va surprendre tous ses adversaires, hein, mais qui va être hyper déroutant pour eux parce que il se fie à son apparence, alors qu'en fait c'est un grand chef de guerre qui recule devant rien pour faire gagner son camp, qui recule devant aucun massacre. Et c'est un manga, même s'il y a le côté magie et justement le fait que ça soit une petite héroïne, qui est assez réaliste, on va dire, au niveau des situations. Vous voyez, ça fait un peu situation de guerre où genre voilà, il y a des massacres de guerre et autres. Et on est très pris par l'histoire. Et surtout qu'on va découvrir très vite que la jeune fille, donc du coup qui est une sorte de commandante, en fait en gros c'est une grosse sadique, quoi. Si elle doit massacrer des gens de son camp histoire de garder, vous voyez, un minimum d'autorité envers ses soldats, elle ne sera pas le faire, quoi. Ah oui, bah, et la fin du premier épisode va directement mettre le ton, quoi.
C'est pas trop trash, quoi. C'est juste.
Alors ça dépend justement, parce qu'au début de la série, en tout cas, c'est juste la fin de l'épisode, on s'y attend pas. Voilà, bah de toute façon c'est pas vraiment du spoil, quoi, mais elle va à un moment, il y a un groupe de mecs qui vont pas respecter un de ses ordres, alors qu'elle avait dit voilà de battre en retraite, ils vont quand même y aller pour massacrer les ennemis. Et donc du coup elle va tout simplement leur donner une nouvelle affectation à ces gens là donc au début on y a, parce qu'il y a une autre fille qui fait partie de l'équipe, qui est un peu genre la fille un peu innocente, on va voir justement l'histoire un peu à travers ses yeux. Et elle va juste apprendre que voilà, ses camarades vont être affectés ailleurs. Et à la fin de l'épisode, on va découvrir qu'en fait, elle les a affectés à un endroit qui était genre en première ligne, un endroit propice au bombardement. Et donc, évidemment, on va apprendre à la fin de l'épisode qu'ils sont fait bombarder, quoi. Ouais. Voilà. Oh. Et qu'en fait, c'était évidemment purement calculé. Et c'était sa manière à elle de leur montrer qu'en gros, si vous me faites chier, et bah, vous allez grave le regretter, quoi.
Mais elle est horrible.
Ah oui, bah complètement. Ah, et surtout qu'alors... Et c'est là que l'histoire prend encore tout son sens. Dans le deuxième épisode, on va se retrouver dans la ville de Tokyo, de nos jours, où on voit un salarié totalement blasé par la vie. On voit que c'est quelqu'un qui réussit beaucoup dans la vie. Si ce n'est que, justement, il est tellement à fond de son travail qu'il n'a plus, il a totalement oublié, vous voyez, le côté facteur humain. Et il va se faire assassiner par un de ses clients qui n'avait pas aimé la façon dont il avait été traité. Et au moment où il va mourir, on voit que le temps s'arrête pour lui. Il dit mais non, pourquoi je meurs maintenant, j'ai encore plein de choses à faire dans la vie. On voit que c'est un mec, vous voyez, hyper calculateur, qui avait vraiment envie de réussir d'un point de vue social. Et d'un coup, et ben, il se réincarne. Justement, on le voit en fait genre en train de naître en tant que bébé dans ce monde parallèle, je vous ai dit, Première Guerre mondiale. Sauf qu'il a gardé en fait, vous voyez, toute son intelligence de salaryman de la ville de Tokyo, quoi. Et en fait, cette expérience-là va lui permettre de gravir des échelons très 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 rapidement. Il va apprendre.
À 3 ans, il est général.
Ah mais c'est non, pas à 3 ans, mais on va dire
baby boss.
Dès le début, il va, enfin je veux dire, il est lucide sur la vie. Il sait voilà comment fonctionnent les humains et il va apprendre en fait tout ce qu'il y a à apprendre sur ce nouveau monde qu'il connaît pas du tout, c'est-à-dire ce monde parallèle avec notamment la magie. Dès la naissance, il va apprendre la magie et surtout il va la comprendre vu qu'il a une intelligence d'adulte. Ouais. Et c'est ça qui va lui permettre de devenir, je me rappelle plus, il appelle le démon quelque chose, enfin par rapport à, on va dire, son ascension fulgurante et surtout sa cruauté. Et en fait, lui, son but, c'est clairement de gravir les échelons pour devenir l'un des plus hauts gradés de la guerre et apporter surtout la victoire à son pays. Et ce qui est aussi surprenant, c'est que, en gros, on va suivre l'histoire, parce qu'évidemment, on est du côté du héros. Sauf que, on a vraiment l'impression qu'on suit l'histoire du côté de, genre, de l'Allemagne. Et qu'en gros, et ben les méchants de l'histoire, et ben c'est les pays, voilà, la France, l'Angleterre, ouais. Voilà. Et c'est hyper déroutant, mais en même temps c'est hyper intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors pour vous, parce que je sais que vous êtes une génération, notamment certains abrutis là qui disent genre ouais Hitler trop badass tout ça, et ben vous serez comme des dingues parce que clairement.
Mais du coup c'est la Deuxième Guerre mondiale, pas première.
Et ben alors, en fait, sur certains points c'est la première, et sur d'autres c'est la deuxième, quoi. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut regarder les animés pour voir justement comment ça va évoluer. Parce que les animés n'est pas encore terminé. Hein. Là, on en est à la moitié de la série. Ils annoncent une série à 24 épisodes et là, on en doit en être à 12, quoi. Mmh. Mais moi, justement, alors, ce que j'ai bien aimé, c'est cette histoire-là parce que je trouve que c'est hyper original, clairement. Autre aspect intéressant, c'est l'aspect technique du dessin animé parce qu'il est super bien fait. Et en fait, on a envie de savoir comment ça va évoluer. clairement, parce que comme j'ai dit, c'est une histoire qui sort des sentiers battus, donc du coup on a envie d'en savoir un peu plus et de voir comment ça va évoluer, quoi. Est-ce que justement, dans le sens où on suit le point de vue du héros, est-ce qu'il va faire gagner les méchants ou pas, et pourquoi justement la magie elle a été apportée dans ce monde là qui est un monde parallèle, et pourquoi aussi le héros bah il a ressuscité dans cet univers là, quoi. Qu'est-ce qui lui a permis de revenir sur les traits de cette gamine là, quoi. Donc voilà, un dessin animé très intéressant. Et on a vraiment envie de connaître la suite. Et pour l'instant, je vous le conseille, même si clairement, c'est pas forcément les animés qui va plaire à tout le monde, hein, parce qu'il faut aimer ce genre d'histoire, quoi. Mais bon, voilà, c'est historique, ça donne une nouvelle vision, même si il y en a beaucoup que ça va surprendre, quoi. Mais moi, j'aime bien justement les animés qui apportent une nouvelle histoire, qui donne un autre point de vue, j'ai envie de dire, quoi. Et surtout, bah, vous qui aimez les sadiques, bah, vous allez aimer, quoi. Parce que clairement, c'est un taré, le mec, hein. Enfin, bref. Donc, du coup, le dessin animé s'appelle Yojo Senki. Et c'est la fin du dossier de Rio. Voilà. Merci bien.
T'as oublié la note.
Au niveau de la note, pour l'instant, je lui mettrais un bon 16 sur 20. 16 sur 20 dans le sens où la série est pas terminée, donc c'est difficile de mettre une note finale par rapport à toute l'histoire, quoi. Mais ne serait-ce que pour l'originalité et le bon aspect technique, voilà, pour l'instant je lui mets un 16, quoi. Et en plus, vu que le 16 sur 20 c'est la note, tout ce qu'il y a de plus classique à Tokyo Hime, oui. Voilà, on va rester sur le 16 sur 20, quoi. On va pas prendre trop de risques. Allez, donc du coup, vous êtes toujours sur Cooler FM pour l'émission Tokyo Hime. Et maintenant, l'heure est venue de jouer au fameux jeu de
Tokyo Hime.
Alors, jeu Tokyo Hime, même équipe qu'à la dernière fois.
Qui c'est qui commence?
Alors, eh ben, ça sera vous. Ouais. Du coup, vu que vous demandez.
Nah.
Alors.
On aurait pu échanger.
Donc, mais vu qu'il a demandé, ça veut dire qu'il avait envie de faire le faillot, j'ai envie de dire.
Exactement.
Et, d'être le faillot. Premier. Alors, je veux, attention, un manga ou un dessin animé qui nous renseigne beaucoup sur l'histoire en général.
Kenshin,
j'accorde. Ensuite,
Gothic.
C'est quoi?
Le truc d'enquête là?
Ouais.
Ouais, allez, j'accorde. Ensuite,
Gintama.
Non.
Le pire, c'est que oui.
Ils en parlent beaucoup.
Mais après, en fait, le truc, c'est que je trouve
mais c'est,
que.
C'est vrai que c'est très déformé.
Voilà,
mais...
c'est très déformé, mais en fait, je compare beaucoup à Kenshin parce que c'est la même époque. Ouais. Et c'est vrai que si tu lis Kenshin, eh ben, t'as pas vraiment de surprise au niveau de Gintama. Donc, je vous demanderai un autre. Sachant que vous êtes large, pour l'instant. Alors. 10. 9 et 8.
Mulan, ça marche ou pas?
C'est pas un manga.
C'est pas un manga.
7.
Ouais, mais c'est un dessin animé, t'as dit un dessin animé.
5. Ouais, mais un manga.
Un manga animé. Mince.
6. 5. 4. 3. Déconnez pas. 2. 1.
Chi.
Ah,
ça nous renseigne sur l'histoire du
vous chat. Avez dit Termae et Romae, c'est ça? Eh ben, je l'accorde.
Ouais, c'est vrai,
alors,
c'est vrai.
À vous.
Abusez.
Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que Index ça marche? Parce qu'il y a beaucoup sur l'histoire de l'église anglicane et romaine.
Ouais, si, ouais, je l'accorde, c'est vrai. Allez, à vous.
Yes, nice.
10, 9.
Jésus le manga.
Il existe,
oui,
et je l'accorde.
Oui.
À vous.
Gamaran, ça marche ou pas? Pour l'ère Edo et tout avec les
samouraïs. Non, parce qu'en fait, justement, Gamaran, et c'est un peu une des critiques que je faisais, c'est qu'on apprend beaucoup sur les écoles de sabre et autres, mais je pense pas vraiment que ces écoles de sabre aient vraiment existé, et surtout, ouais, au niveau de l'histoire en soi, on n'apprend rien. C'est plus un contexte qu'autre chose. Allez, essayez de trouver autre chose.
Yojo Seiko?
Celui dont je viens de parler.
Ouais.
Non, comme d'habitude, la règle c'est qu'on n'a pas le droit de parler dessous. Mais reparler, essayez de penser à tous ces mangas historiques. Allez, allez.
Oui,
c'est chaud.
Mais oui, c'est chaud.
10, 9.
Pokémon.
Non.
Abuse pas.
7.
City Hunter.
Non, pas du tout. Mais alors, pas du tout.
Vraiment non.
Tain, c'est fou. Les gouttes de Dieu.
C'est pas d'histoire.
Ouais, c'est pas.
C'est pas, il y a peut-être l'histoire sur le vin.
Ouais, là,
je parle pas que du.
Allez, vu
que
vous êtes mauvais, je l'accorde. À vous.
Ah putain.
Mais c'est chaud comme 10. Thème en vrai.
Mais bien sûr.
C'est dur de se dire oh là là, il est né en 394, mort dans la salle de bain.
6. 5.
Bakugan, parce qu'il parle de l'histoire de comment est-ce qu'il est devenu manga.
Tu parles des toupies?
Non, Bakuman.
Non, Bakuman.
T'as
dit
Bakugan.
Non, parce que Bakugan, c'est les toupies.
C'est toupies, ouais.
Je te parle du manga.
Ok, Bakuman.
Ouais,
mais moi, je parle plus de l'histoire de l'humanité.
Ouais, l'histoire de l'humanité. Ah oui, si on fait une histoire tout court, on peut partir longtemps, là. Un manga avec une histoire.
Bah, Code Geass, c'est très inspiré de trucs.
Oui, mais t'apprends pas de trucs sur la vraie histoire.
Bon, allez. Vu que les 10 secondes sont passées, je vais accorder Le point. Alors l'équipe.
Attends, franchement, c'est vraiment chaud. Quand même.
Même si
il vous, il vous a donné Termaï.
Mais on
les
a donné très fort. Ouais. Il y a un manga que j'aurais.
Ouais, t'en avais d'autres.
Il y a un manga ouais que j'aurais accordé et je m'attendais peut-être à ce que Haro le dise. Et ben, ça aurait été Fate, la saga des Fate, par rapport à tous les personnages historiques qu'il y a
ouais,
dedans.
C'est vrai.
Ah bah oui.
J'y pensais
ah.
même plus.
Il y avait d'autres choses. Ouais. Ou
bah le manga Robin des Bois aussi.
Est-ce que Innocence ça serait passé?
Ouais, j'aurais accordé aussi.
Okay,
c'est bon. Bien de trouver tout plein de ouais. trucs après. Ouais, c'est toujours ça. Allez, l'heure est venue de se quitter. Mais l'équipe de Chamallow et Aron a gagné.
Ouais.
Allez, donc on remercie tout de suite notre cher ami. Ah, attendez, laissez-moi lancer la
tout
musique.
Tout le monde.
Parce que quand il n'y a pas la musique, c'est pas marrant.
Non,
allez, on remercie Lorato. On remercie. Ah, c'est bon, un peu d'entrain, là. On remercie Clodo.
Ouais, ouais.
Merci, Clodo.
Il n'y aura pas d'endroit où dormir. On remercie Chamallow.
Ouais. Ouais.
On remercie Aro.
Ouais. Ouais.
Et on remercie, Aron, évidemment, vous, chers auditeurs de notre côté. On remercie tous nos partenaires. Et n'oubliez pas, Tokumi un jour.
Tokumi toujours.
On va place à la musique. Salut, papa, et ciao.